C'est un honneur et un plaisir d'être avec vous. Je pense que la personne ici que je connais depuis le plus longtemps, c'est Marie-Andrée. On s'est connus à Québec en 1974, dans l'Église chrétienne et Alliance et Mission. Ce matin, j'aimerais lire avec vous la parole de Dieu, un petit passage tout court que probablement vous connaissez déjà et qui m'a souvent chicoté, parlé. Marc 7, 24 à 30. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine tyro-phénicienne. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Est-ce que ça vous chicote, ça vous dérange, le terme « chien » en parlant de quelqu'un? C'est vrai que on a déjà vu Jésus insulter des gens. Il a traité certaines personnes de sépulcres blanchis. Mais seulement quand ils sont pleins d'eux-mêmes, pas comme cette femme qui est à genoux devant lui. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des gens qui ont même dit qu'il a utilisé une insulte raciste. L'Évangile de Marc présente Jésus comme le Messie d'Israël, qui vient non comme roi militaire conquérant, mais comme le serviteur souffrant qui donnera sa vie pour son peuple, qui deviendra leur pain de vie. Dans la mini-parabole au cœur de ce récit de guérison, Jésus se sert de l'image de chiens. Prise dans leurs propres préjugés, les préjugés de son peuple juif, envers les non-juifs. Mais il la transforme. Il enseigne à ses disciples la nature de sa mission, celle d'être le pain de vie, premièrement au peuple juif, mais pour que ce peuple, ce message soit ensuite pour toutes les nations qui ont faim. Il démontre que même cette femme jugée comme impure recevra le pain qu'elle désire parce que sa foi humble dans le Messie d'Israël. OK. Comment je fais? Non, c'est pas ça. OK. Pour mieux comprendre cette histoire, il est très utile de considérer où Marc le place dans son récit plus grand. Au début du chapitre 7, notre récit est à la fin du chapitre 7. Presque au milieu de l'Évangile. Au début du chapitre 7, les pharisiens et les maîtres de la loi viennent depuis Jérusalem pour discuter avec Jésus. Ils sont sûrement attirés par les nouvelles du miracle spectaculaire de la multiplication des pains en Galilée, raconté au chapitre 6, où des milliers de gens ont mangé, mais n'en parlent même pas. Il ne mentionne pas non plus le grand nombre de guérisons que Jésus vient de faire dans la région de Génézareth, aussi dans le chapitre 6. Quel est le sujet si important sur lequel insistent ces chefs religieux, si ce n'est pas les miracles qui atteignent des milliers de personnes? La manière correcte de se laver les mains et la vaisselle avant de manger, selon les traditions de nos pères. Donc, imaginez tous ces gens qui ont mangé sans se laver les mains. Les pharisiens semblent plus intéressés par leurs propres coutumes symboliques extérieures que le fait que les gens affamés aient miraculeusement mangé. Il s'ensuit une importante discussion sur la pureté et l'impureté, parce que se laver les mains, ça a à faire avec la pureté et la pureté du peuple juif. Jésus leur dit que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur de l'homme qui le corrompt, mais c'est ce qui sort de son intérieur, de son cœur. Les pharisiens se concentrent sur le symbolique et le rituel, ils manquent le point de toute la loi. De plus, au verset 18, nous voyons que même les disciples semblent avoir de la difficulté à comprendre que l'impureté vient de dedans, du dedans, de l'intérieur, et non pas des pratiques extérieures de l'homme. J'imagine que tout ça devait être drainant pour Jésus. Les foules, les disputes avec les autorités religieuses, sans parler de l'incompréhension de ses propres disciples. Dans tous les cas, Marc nous dit que Jésus décide de sortir de là. Jésus partit de là, verset 24 du chapitre 7. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est la toute première fois que nous le voyons quitter le territoire d'Israël et entrer dans une région carrément non-juive. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache, mais ne put rester caché. Jésus s'efforce de s'éloigner, de prendre du temps à part, mais ses efforts sont frustrés. Prendre du temps seul avec Dieu et avec ses disciples faisait partie des rythmes spirituels saints qui ordonnaient sa vie. Mais ici, même ce désir est frustré. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. La désespération de cette femme se sent dans l'extrême humilité du geste de se jeter à ses pieds. Nous ne savons pas si la femme est mariée ou si elle a une famille étendue qui lui donne du soutien, mais on la voit ici seule. Elle ressemble beaucoup à une mère seule, désespérée et sans aide. 26. Cette femme était grecque d'origine syro-phénicienne. En plein milieu de l'action, Marc fige son récit avec une petite parenthèse sur l'identité de la femme, en lui donnant deux identités. Marc insiste sur le caractère non-juif. Premièrement, grec, ou la manière que le peuple juif référer à une variété de peuples non-juifs qui parlaient la langue dominante de l'Empire, le grec. Donc, dans certaines traductions, c'est non-juif. Mais, deuxièmement, il mentionne son ethnicité particulière, syro-phénicienne. En effet, Jésus est dans la région de Tyr, une ville importante de la Phénicie, au nord d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez de la princesse infâme de Tyr et de Sidon qui s'est mariée avec un roi israélite? Oui, c'est Jézabel qui a amené le pays dans l'idolâtrie. Elle s'est même acharnée à persécuter les prophètes de Dieu, et en particulier le prophète Élie. Oui, c'est Jézabel. Dans la mémoire collective juive, elle est venue à symboliser le mal, l'idolâtrie et tout ce qui rend impur. Rappelons-nous que notre mère désespérée est associée à ce stéréotype. Et elle arrive dans le contexte de la discussion sur la nature de l'impureté. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Le comble? La femme est là parce que sa fillette a un esprit impur. Pour un auditeur juif de ce récit, nous parlons d'un cas triplement impur. Premièrement, grec ou non-juif. Deuxièmement, syro-phénicienne. Et enfin, ayant un problème d'esprit impur. Mais dans une posture d'humilité complète, la femme se jette aux pieds de Jésus et l'implore de chasser le démon de sa fillette. Son état, attitude de besoin urgent, de foi qui risque l'humiliation avec son problème honteux. Et tout le contraire de l'orgueil et de l'autosuffisance des pharisiens qui veulent toujours préserver leur apparence de pureté. Mais la réponse de Jésus peut initialement nous perturber et même nous choquer. Jésus lui dit: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les Juifs, qui voulaient se garder purs des influences des nations idolâtres et qui les entouraient, utilisaient parfois l'insulte de chien pour référer à des non-Juifs. Ils évoquaient les chiens errants qui fouillaient les ordures, très impur et même dangereux. Mais Jésus utilise ici la forme diminutive de ce mot qui fait penser aux petits chiens ou aux chiots qui avaient leur place dans la maison. Mais quand même, est-ce qu'il traite la femme de petit chien? Le plus curieux, c'est que la femme elle-même ne semble pas s'offenser. Plutôt que de sentir le rejet, elle aperçoit l'ouverture. Elle saisit sa chance. Si Jésus laisse d'abord les enfants se rassasier, elle entend que ce n'est pas un refus, qu'il y aura un moment pour les petits chiens aussi de manger. Le nœud de toute cette discussion de priorité, qui mange le premier, remonte à la mission de Jésus comme Messie, longtemps attendu par Israël, mais aussi à la raison même d'exister d'Israël. Des millénaires auparavant, Dieu appelle Abraham pour entrer en relation avec lui. Non pas seulement pour lui et sa famille, mais pour que la terre entière soit bénie à travers sa descendance. Plus tard, dans l'alliance à Sinaï avec Moïse, Dieu donne la loi au peuple d'Israël. Le but de cette alliance et de ses privilèges est de les enseigner à vivre pour que, comme nation, ils soient une lumière aux nations. C'est un peu comme ça pour nous aussi. Notre place dans la maison de Dieu, ce n'est pas juste pour nous. C'est pour ça que ça s'appelle chrétienne missionnaire. Alliance chrétienne et missionnaire. Pour cette raison, ce temps limité et cet ordre dans sa mission, il ne peut risquer la distraction d'attirer beaucoup d'attention dans les pays autour d'Israël avant de finir sa tâche envers Israël. Jésus voit la croix s'approcher. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Sa mission n'est pas de guérir chaque malade dans le pays, mais que ces guérisons soient un signe que le royaume de Dieu soit arrivé. Il semble qu'il soit allé au nord pour échapper l'attention pour un temps, non pour en attirer encore plus. Et le plus surprenant, c'est qu'alors que les chefs religieux ne semblent pas saisir les paraboles de Jésus, et même ses disciples ne les comprennent souvent pas, cette femme non-juive non seulement comprend parfaitement la métaphore de Jésus, mais elle engage la discussion théologique. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose dans le ton de Jésus qui lui donnait le courage de continuer. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Elle comprend que les enfants, dans la parabole, c'est le peuple juif, qui ont le droit premièrement à l'attention du Messie, et que les petits chiens sont les peuples non-juifs qui doivent attendre leur tour pour s'alimenter. Elle s'identifie heureusement à ces petits chiens et elle rappelle à Jésus qu'ils sont prêts à attendre les miettes qui tombent de la table pendant que les enfants mangent leur pain. Jésus reconnaît la perspicacité de sa foi et surtout l'humilité de sa demande qui surgit de son grand besoin pour son enfant souffrant. Alors, il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit, et le démon était sorti. J'entends une chaleur dans la voix de Jésus quand elle lui dit qu'elle peut rentrer chez elle parce que sa demande est exaucée. J'imagine l'impatience de la maman de retrouver sa fillette enfin libérée et au repos. La joie dans son cœur, la louange au Dieu d'Israël. Les disciples témoignent du respect que Jésus accorde à cette femme, un peu eux. Pendant toute cette répartie, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Il utilise leurs propres préjugés et les transforme pour expliquer sa mission. Mais, revenons un moment sur l'image centrale de la parabole, la priorité au pain. Il y avait une autre syrophénicienne dans l'histoire d'Israël qui avait faim. ce n'était pas la reine Jézabel, idolâtre, sinon une pauvre veuve qui vivait à Sarepta, exactement la même région de cette histoire en Marc. Un roi 17 nous raconte comment pendant une grande sécheresse, Dieu envoie son prophète Élie hors d'Israël et dans le territoire natal même de Jézabel, la reine meurtrière, qu'il fuit. Dieu a des plans étranges des fois. De là, il retrouve une veuve qui ramasse du bois pour cuire sa toute dernière miche de pain avant de mourir. Elle n'a plus rien. Élie lui fait une demande surprenante. Pas si j'ai... Non. OK. Sois sans crainte. Rentre. Fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. La veuve de Sarepta, également non-juive, croit au Dieu d'Israël. Elle lui fait confiance et accepte humblement que le prophète mange le premier. Et en retour, elle et son fils mangent à satiété pendant tout le temps de la famine, 2 ans, miraculeusement. Est-ce que la maman du récit de Marc connaissait l'histoire de la veuve de Sarepta? On ne sait pas, mais c'est possible. Parce que dans une culture orale, ce type d'histoire se transmet pendant des générations. Elle aussi met sa foi dans le Dieu du prophète d'Israël. Elle non plus ne questionne l'ordre de manger, l'ordre dans lequel on mange. Elle aussi est exaucée. Une dernière réflexion sur le thème de pain dans le contexte plus grand de l'Évangile de Marc. Ce récit au chapitre 7 avec la parabole sur le pain premièrement aux enfants et ensuite aux petits chiens est une espèce de pivot encadré par 2 autres récits de multiplication de pain. Le premier au chapitre 6, le deuxième au chapitre 8. Ces 2 miracles, qui rappellent la manne miraculeuse dans le désert, montrent symboliquement qu'il y a assez de pain céleste pour tous. Au chapitre 6, la multiplication de pain se passe en Galilée. Et les 5 000 plus sont des Juifs, principalement. Mais la deuxième se passe dans la région de la Décapole, qui était principalement habitée par les non-Juifs. Donc, ces 2 miracles qui rappellent la manne miraculeusement dans le désert montrent symboliquement qu'il y a assez de pain céleste pour tous. Premièrement, les Juifs, et deuxièmement, toutes les autres nations, qui étaient le but du peuple juif depuis le début. La rencontre de Jésus avec la Syrophénicienne l'annonce déjà. Les chefs religieux, remplis d'eux-mêmes, ne comprenaient pas du tout le sens de la pureté et l'impureté. Par leur orgueil et autosuffisance, ils ont méprisé le don de Dieu et traité de vils ce qui était sans prix. Leur sentiment de supériorité les a empêchés de percevoir leur propre indignité, les a empêchés de recevoir le pain qu'il est venu leur offrir. Mais cette mère syrophénicienne d'une population considérée un peu a ardemment désiré ce pain. Elle a démontré la foi humble dans le Dieu d'Israël. Sans aucune prétention, elle était prête à prendre la dernière place ou les miettes sous la table. Elle, et non eux, aura sa place à, sa table, à la table de son Seigneur, à son côté, comme son enfant bien-aimé. Est-ce que j'ai faim de ce pain de vie? Est-ce que je crois que je mérite la grâce de Dieu? Ou est-ce que je viens à lui dans mon indignité, ma vulnérabilité et mon besoin? Pour fermer, j'aimerais lire une prière qui vient d'une de nos liturgies de la Sainte Cène et qui évoque cette histoire, parce que chaque fois qu'on dit ces mots, ça vient me chercher. Nous ne présumons pas de venir à ta table, ô Seigneur, Seigneur miséricordieux, en nous confiant en notre propre justice, mais à tes grandes et abondantes miséricordes. Nous ne sommes pas dignes de ramasser même les miettes qui sont sous ta table. Mais tu es le même Seigneur, dont la propriété est d'avoir toujours pitié. Accorde-nous donc, Seigneur, plein de grâce, de manger la chair de ton cher Fils Jésus-Christ et de boire son sang, afin que nos corps pécheurs soient purifiés par son corps et que nos âmes soient lavées par son sang très précieux et que nous puissions désormais demeurer en lui et lui en nous. Amen.